Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Comprendre vraiment l'art moderne. L'art moderne n'a pas créé l'anarchisme. L'anarchisme n'a pas créé l'art moderne. Mais la première exposition impressionniste a eu lieu en 1874 et le premier congrès de l'International anarchiste a eu lieu en 1872. Et quoique ni Manet, ni Degas, ni Monet n'aient particulièrement agité le drapeau noir, ils ont quand même mené la première charge concertée contre l'imposant édifice de l'art officiel. Pissarro, en revanche, fut anarchiste. Et parmi les premiers successeurs des impressionnistes, Signac, Cros, Maximilien Luce, Morin furent soit anarchistes, soit très proches des anarchistes. Et ils furent tous défendus par le critique Félix Fénéon, anarchiste notoire. De façon plus fondamentale, le même type de renversement s'opère dans les deux cas. À une manière unique de voir et de donner à voir, succède la liberté la plus complète dans les manières de voir et de donner à voir, et à une manière unique, la hiérarchie, de concevoir la politique, succède l'exigence la plus complète de la liberté et de l'égalité politique. Aux structures asymétriques, le chef qui décide, le sujet qui obéit, et l'artiste qui donne, le spectateur qui reçoit, succède des structures espérées égalitaires, de partenaires égaux dans la décision, l'action et la distribution, et du spectateur partageant avec l'artiste le travail de création de l'œuvre. Gardons-nous bien dès l'abord d'un contresens possible. Les aspects communs de l'explosion artistique occidentale moderne et de l'explosion anarchiste peuvent s'expliquer par les aspects communs des développements à l'intérieur de chacun de ces deux champs. Mais les artistes modernes ne sont pas devenus modernes parce qu'ils étaient anarchistes. Après les pointillistes et avant eux, la majorité des artistes occidentaux n'étaient pas anarchistes. Et quant à l'anarchisme, ils ne cherchent pas à soutenir telle ou telle école artistique. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons essayer de comprendre, c'est cette explosion de l'art moderne. Alors nous allons commencer avec la structure essentielle de l'art occidental, la perspective. La peinture occidentale, celle qu'aiment les gens qui n'aiment pas l'art moderne, elle a commencé avec les Italiens, ou plus directement, elle a recommencé avec les Italiens. Par exemple, Cimabue. Vous savez, Cimabue, si vous allez au Louvre, ben, vous le voyez au début de la Grande Galerie, ce sont des peintures qui ressemblent énormément aux icônes russes, c'est-à-dire très exactement aux icônes byzantines, puisque tout simplement les Italiens ont commencé en copiant la peinture byzantine. Quand on regarde tant les peintures byzantines que celles de Cimabue, on s'aperçoit d'une chose, que les visages sont absolument pas réalistes, qu'ils sont stéréotypés, et puis surtout, on s'aperçoit que les icônes ou la peinture de Cimabue, il n'y a pas de profondeur. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de profondeur? Les icônes sont une peinture religieuse qui veut représenter le ciel, le monde divin, et pour bien marquer qu'il est différent du monde humain, d'abord, en général, on peint sur un fond d'or, et puis, pas de profondeur, puisqu'elle n'est pas nécessaire, c'est un autre monde. Seulement voilà. Arrive Giotto. Et Giotto, on lui commande la vie de saint François d'Assise. Alors, même si saint François d'Assise appartient à la mythologie chrétienne, il a quand même bien existé. Les Italiens l'ont vu, ils ont mangé et bu avec lui, et puis il a prêché, paraît-il, aux oiseaux, au soleil, aux loups. Mais alors, si on veut représenter la vie de saint François d'Assise, ben, il faut représenter les loups, les oiseaux, le soleil, la montagne. Bref, il faut représenter la réalité. Giotto, se disant ben, « maintenant, il faut que je représente la réalité », il se rend compte que la réalité telle que nous, les humains, nous la voyons, elle est profonde. Elle n'est pas plate, elle n'est pas en deux dimensions seulement comme les icônes byzantines. Elle est creuse, elle a trois dimensions. Et son problème devient « mais comment est-ce que je vais creuser le tableau ?» Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'avais essayé d'apprendre à dessiner, comme beaucoup de monde, je me disais, mais comment je creuse là la feuille de papier, elle est plate, ce que je veux, c'est que ça aille loin, ça aille profond. Eh bien, Giotto, il découvre une règle très simple. Ce qui est loin semble petit, ce qui est proche semble grand. On ne va pas peindre deux arbres identiques, comme faisaient les Byzantins. On va en peindre un tout petit, et il va donc désigner le fond, le lointain. On va en peindre un autre grand, et il va désigner ce qui est au premier plan, ce qui est proche de nous. Et alors ce qui se passe, c'est que, après Giotto, les peintres italiens, peut-être aussi la clientèle ecclésiastique italienne, ne sait-on jamais, vont être fascinés par cet effet de réalité. Et il va y avoir une rivalité professionnelle, une rivalité de marché, entre peintres pour essayer d'être de plus en plus réaliste et, très précisément, de donner une profondeur acceptable au tableau qui reste pourtant un objet en deux dimensions. Et c'est pour ça que dans les années 1430, on va inventer la perspective. Alors la perspective, qu'est-ce que c'est? Pour comprendre, en particulier là à la radio où on ne peut pas voir les choses, pour comprendre ce que c'est que la perspective, il faut que vous visualisiez une pyramide. Vous, le spectateur ou la spectatrice, vous êtes debout, vous regardez un tableau. Imaginez que la pyramide, elle soit entre vous et le tableau. Mais au lieu que la base de la pyramide soit posée sur le sol, la base de la pyramide, vous la remontez et elle est contre votre visage. Donc la pointe de la pyramide, elle va jusqu'à l'objet que vous voulez décrire. La verticale qui part de la pointe de la pyramide vers le sol, elle est parallèle au sol, elle n'est pas perpendiculaire au sol. Les pyramides, elles sont perpendiculaires au sol. Non, là, la base, elle est contre votre visage et la pyramide se dirige tout droit en face de vous. C'est ça la perspective. C'est d'avoir dans les yeux une pyramide virtuelle et la pointe de la pyramide, c'est le célèbre point central, le point focal, le point de fuite. Et une fois qu'on a inventé ça, et incidemment, on présume que c'est un architecte qui a eu l'idée principale, Brunelleschi, et c'est pas étonnant parce que les architectes, qu'est-ce qu'ils font professionnellement? Ils font des dessins en deux dimensions, mais ils sont obligés de penser en trois dimensions parce que ce qu'ils veulent construire, c'est en trois dimensions. Eh bien, une fois que cette perspective, ce type de perspective a été inventé, waouh, génial, la peinture occidentale est devenue une peinture illusionniste. Alors attention, c'est le mot qu'il faut utiliser. Vous entendez souvent parler de peinture figurative, de peinture réaliste. Non. Le bon mot, c'est illusionniste. Le but de la peinture occidentale, une fois que la perspective est inventée, c'est de vous donner l'illusion de la réalité. Seulement, la peinture occidentale, elle va très vite dépasser le simple cadre de la décoration d'églises, et en particulier de la décoration des autels et des murs des églises. Et elle va arriver dans les maisons, évidemment les maisons des riches, hein, les palais, les châteaux, les maisons des grands banquiers, puis les maisons des grands marchands, et on va avoir en général un cadre autour de ces peintures. Et alors là, on va arriver à la deuxième structure absolument fondamentale de la peinture occidentale, et ce sera la destruction de cette structure qui marquera la création de l'art moderne. De quoi parle-t-on ? Quand on va au théâtre, quand on va à l'opéra en particulier, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un grand cadre doré autour de la scène. Et puis on voit la scène elle-même, qui est un grand espace plat, et puis au-dessus de la scène, délimité par le grand cadre doré, on voit ce qu'on peut appeler la boîte de scène. Et la boîte de scène, c'est l'espace où il y a les actrices et les acteurs et les décors. Mais quand on va dans un musée occidental traditionnel, qu'est-ce qu'on voit ? On voit plein de cadres dorés, à l'intérieur desquels il y a une peinture, mais cette peinture, elle veut donner l'illusion qu'il y a un espace plat, le sol, l'océan, et puis un grand espace vide au-dessus, qui est l'espace où il y a le portrait, la nature morte, le château, le paysage, la vue de marine. Bref, un tableau occidental classique, c'est une boîte de scène. C'est exactement l'idée qu'il y a derrière. C'est qu'un tableau, ça représente une scène, donc ça représente un espace en trois dimension. Et ça, attention, c'est complètement la structure qui va exister dans la tête de tous les artistes occidentaux et dans la tête de tous les spectateurs de la peinture occidentale jusqu'aux impressionnistes. À l'époque des impressionnistes, tout d'un coup, tout ça va changer. Il y a plusieurs raisons à ça. Première raison, on a inventé la photographie. Oui, et alors ? La photographie copie la réalité beaucoup plus vite, beaucoup mieux, pour beaucoup moins cher. Et donc, si l'art n'a pour but que de copier la réalité, si l'art n'a pour but que d'être illusionniste, mais alors la peinture, elle est morte, parce que ça va bien plus vite. Et parce que tout le monde peut faire de la photographie, alors que faire de la peinture, c'est très difficile. Or, personne ne proclame, ni même les impressionnistes, que la peinture est morte. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien, au fond, que l'idée selon laquelle l'art, le but de l'art, c'est de copier la réalité, que le but de l'art, c'est d'être illusionniste, en fait, on sait très bien que ça ne suffit pas. D'ailleurs, incidemment, les artistes classiques, les artistes avant les impressionnistes, très souvent, pour juger de la qualité purement graphique, purement chromatique de leurs tableaux, très souvent, ils les renversaient. Ils les mettaient sens dessus-dessous pour oublier le sujet, pour oublier ce qui était représenté, et juste vérifier que les couleurs étaient bien les bonnes, que les masses et les lignes et les formes étaient bien celles dont ils avaient envie. Et puis, les impressionnistes comprennent qu'il se passe une deuxième chose avec la photographie. Alors là, c'est un petit peu compliqué de visualiser ça. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire, la pyramide de la perspective. Donc visualisez-vous la spectatrice ou le spectateur, et puis vous avez une pyramide le long de votre visage, la base de la pyramide est le long de votre visage, la pointe de la pyramide est devant vous, comme si vous étendiez le bras et que votre bras était au centre de la pyramide, et l'objet que vous regardez, il est à la pointe de la pyramide. Eh bien, les impressionnistes comprennent que la photographie renverse cette pyramide. Vous allez me dire, pardon, là tu compliques. Non, non, je ne complique pas du tout. Quand on photographie, les limites de la caméra, les limites physiques de l'objectif de la caméra, et puis du lieu où la lumière touche la pellicule ou touche les pixels, ça crée une limite physique. Ça découpe, comme une paire de ciseaux dans une feuille de papier, ça découpe une partie du monde. Et quand on regarde une photographie, souvent on a bien cet effet violent qu'on voit bien que ça coupe. Par exemple, vous prenez la photographie d'une foule, vous prenez la photographie de quelqu'un dans une foule, alors le quelqu'un, il est bien, il est complet, et puis les gens à droite, ils sont coupés au milieu, et les gens à gauche, ils sont coupés presque au milieu aussi. Et donc, vous imaginez immédiatement ce qu'il y a au-delà des limites de la photographie. Donc, la peinture occidentale, qui était une boîte de scène, qui construisait l'image à l'intérieur du cadre doré, et qui voulait suggérer qu'il n'y avait que cette image à l'intérieur qui comptait, avec la photographie, c'est le truc inverse. On explose les murs de la boîte de scène, et on donne l'impression qu'il y a le reste tout autour. Avec la photographie c'est un œilleton, c'est un Judas, c'est un petit trou dans une scène. Bref, les murs de la boîte de scène ont explosé. Ce qui signifie que, au lieu que mentalement les gens se concentrent sur le point de fuite de la vieille perspective, l'œil du spectateur va un peu partout, et surtout l'esprit du spectateur n'est plus concentré sur le point de fuite. Et puis, troisième chose qui se passe, et alors là, c'est au-delà de la simple photographie. Les impressionnistes, ils en ont marre de la boîte de scène. Pourquoi ? Parce que la boîte de scène, dans la peinture occidentale classique, c'est vraiment une boîte de scène, c'est vraiment un théâtre. C'est-à-dire que jusqu'aux impressionnistes, la peinture a principalement servi à raconter une histoire. Jésus sur la croix, la Vierge Marie déplorant la mort de Jésus, la gloire de Louis XIV écrasant les protestants, la gloire de Louis XIV massacrant les Hollandais, la gloire de ceci, les épisodes. C'est toujours un épisode, c'est un instant, c'est comme un instant dans un film. Mais les impressionnistes, ils se disaient, nous, on veut représenter ce qu'on voit. Et très honnêtement, les peintres jusqu'à eux, est-ce qu'ils voyaient le Christ mort sur la croix ? Non. Est-ce qu'ils voyaient Louis XIV en train d'écraser les protestants ? Non. Donc ils étaient tout le temps à imaginer et à raconter des histoires. Et les impressionnistes disent, non, nous, désolé, on veut voir le monde et on veut représenter ce qu'on voit. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'ils en ont marre de raconter des histoires. Ils disent, la peinture, ça ne sert pas à raconter une histoire, ça sert à représenter ce qu'on voit. D'autant plus que, qu'est-ce qui se passe socialement à ce moment-là ? Arrive non seulement la bourgeoisie, mais en plus la petite bourgeoisie. Et tout d'un coup, tous ces bourgeois veulent bien sûr imiter le mode de vie des aristocrates. Et qu'est-ce qu'ils savaient du mode de vie des aristocrates ? Ben, entre autres choses, que les aristocrates, dans leurs palais, dans leurs hôtels particuliers, il y a des tableaux au mur. Alors les tableaux, ça coûte cher. Et donc la bourgeoisie va vouloir mettre des photographies au mur, ou si on va mettre des tableaux, eh bien, au lieu de commander, ce qui est très cher, à un peintre un tableau, on va aller acheter en choisir un dans son atelier. Et donc les peintres, au lieu, par exemple, de se concentrer sur le fait de faire des portraits, qui sont commandés, qui coûtent cher, ben ils vont préparer des tableaux à l'avance. Et ils se rendent compte que qu'est-ce qu'on vend facilement ? Ben par exemple des paysages. Coup de chance, les impressionnistes ne veulent pas faire des peintures d'histoire, ils veulent faire des paysages, ça se vend très bien. Bien entendu, ça va prendre un petit peu de temps. Néanmoins, ce changement, cette arrivée de la petite bourgeoisie comme clientèle des images, eh bien, c'est ça qui va aussi aider à exploser l'art illusionniste occidental traditionnel. les impressionnistes ont fait à la peinture occidentale ce que lui avait fait Giotto. Ils changent tellement la donne, ils ouvrent une porte tellement vaste, qu'il va se passer une rivalité professionnelle et tout le monde va s'y engouffrer. Et de même qu'après Giotto, chacun voulait s'évertuer à montrer qu'il maîtrisait la perspective, et bien après Manet, Degas, Monet, etc., eh bien on va s'évertuer à montrer qu'on sait jouer avec la boîte de scène, qu'on sait inventer une nouvelle manière, soit de jouer avec elle, soit carrément de la détruire. Parce que ce qui se passe avec l'expansion du marché de la clientèle des peintres, c'est qu'il y a aussi un nombre de peintres considérables, peintres professionnels. On commence à avoir des milliers de peintres professionnels en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Et donc, il faut que chacun se démarque des autres. Et l'une des caractéristiques de l'art moderne, c'est que tout d'un coup, on va, pour que ce marché puisse exister, pour que les peintres puissent exister dans ce marché, ils vont vouloir à chaque fois trouver quelque chose que les gens, que les autres peintres, ne font pas, qui est l'exact inverse de ce qui se passait pendant des siècles avant, où pour se faire connaître, il fallait faire exactement ce que les autres avaient fait, mais encore mieux. Avec l'art moderne, il faut faire ce que les autres n'ont pas fait. Puisque on dit qu'il n'y a plus de boîte de scène, puisqu'on renverse la perspective, tout d'un coup, une évidence s'impose. Une peinture, c'est un objet en deux dimensions, c'est un objet plat. C'est pas une boîte de scène creuse, c'est une surface plate. Donc, tous ces gens qui veulent se démarquer en inventant une nouvelle manière de peindre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aplatir la boîte de scène. Ils vont faire en sorte que quand on regarde un tableau, au lieu d'avoir l'impression que c'est creux, que c'est profond, ben on va juste regarder les couleurs, les formes, etc. Alors justement, il y a deux chemins principaux vers l'aplatissement de la boîte de scène. La couleur et la forme. Premier assassinat de la boîte de scène, par la couleur. Le plus grand assassin de la boîte de scène par la couleur, c'est Van Gogh. Van Gogh, ce qu'il va faire, on l'avait très rarement fait avant lui, et surtout, personne ne l'avait fait de manière aussi intense, aussi claire. Il a laissé la trace de ses coups de pinceau sur la toile. Alors, il y avait déjà des peintres où, si on regardait bien, on voyait bien la trace du coup de pinceau. Certaines toiles de Fragonard, beaucoup de toiles de Goya, les toiles de Rembrandt, les toiles de Frans Hals. Mais ça n'était quasiment jamais toute la toile, et puis ça n'était pas tellement le but du peintre. On sentait bien en fait qu'ils avaient envie qu'on voit leur coup de pinceau. Néanmoins, le contexte pictural était tel que ça restait dans certaines limites. Avec Van Gogh, le coup de pinceau est évident. On voit l'aplatissement féroce, intense, de la pâte colorée, du pigment pictural, par les poils du pinceau. Et évidemment, la raison pour Van Gogh, c'est que, comme vous savez, il est très intense lui-même, il sait qu'il est fou, il en est très malheureux, en même temps il est extrêmement émotif, et il veut trouver quelque chose qui symbolise l'intensité de son émotion, et il trouve, à raison, que s'il laisse la trace de ses coups de pinceau, il laisse la trace de son geste, donc il laisse la trace de son corps. Van Gogh, c'est le premier peintre occidental à jeter son corps sur la toile. Alors, attention, je dis bien occidental, parce que s'il y a des Chinois, ou des Japonais, ou des gens qui connaissent bien la calligraphie chinoise ou la calligraphie japonaise, en ce moment, ils sont en train d'éclater de rire. Parce que c'est exactement ce que font les calligraphes chinois, les calligraphes japonais, depuis 2000 ou 3000 ans, enfin pour les Chinois, au moins 2000 ou 3000 ans, parce que la calligraphie chinoise ou japonaise, ça se fait avec tout le corps. Et la calligraphie chinoise ou japonaise, c'est la trace d'un grand mouvement du corps. Quand on apprend à calligraphier...
Et la calligraphie arabe.
Pareil, on a un peu moins intense, mais c'est la même chose. Quand on apprend à faire la calligraphie chinoise ou japonaise, on apprend que le geste ne part pas des doigts, il ne part pas du poignet, il ne part pas du coude, il part au minimum de l'épaule, voire du bassin. Et dans la calligraphie arabe, c'est un petit peu moins intense, mais c'est quand même comme ça, les gestes du calligraphe impliquent une grande partie de son corps. Or, où réside l'émotion ? Dans le corps d'abord. toute émotion humaine est d'abord et avant tout un état du corps. Donc en présentant, non pas en représentant, mais en présentant sur son tableau les états de son corps, Van Gogh nous présente ses émotions, donc grâce à l'épaisseur de ses coups de pinceau. Et évidemment, tous ces coups de pinceau, ce sont des couleurs. Son grand pote, enfin vous savez, son pote, ça se discute, puisqu'il y a eu quelques petits coups échangés, c'est Gauguin. Gauguin, qui lui en a marre de l'univers des noirs bourgeois de son siècle, Gauguin quitte son travail d'agent de change pour aller vivre là où vit la couleur, à Tahiti. Il y va carrément. Au lieu de s'embêter à reproduire les couleurs qu'il voit, il décide de peindre les couleurs qu'il aime ou qu'il veut. Par exemple, il a un tableau qui s'appelle le cheval blanc, et dans le tableau, excusez-moi, mais c'est un cheval vert. D'ailleurs, des chevaux verts, il y en a un paquet dans l'œuvre de Gauguin, certains à peine justifiés par une ombre qu'on pourrait éventuellement croire un peu verte, mais d'autres qui ne sont pas justifiés du tout, qui sont tout simplement verts, comme il aime. Il va peindre des femmes bien dorées, bon, ok, à Tahiti, la peau des femmes est dorée, d'accord, mais sur un fond rouge, dont on se demande d'où est-ce qu'il l'a tiré, où il peint des femmes roses, mais alors rose, et les Tahitiennes, elles ne sont pas roses, sur une plage jaune. Alors vous allez me dire souvent les plages sont jaunes, mais en fait les plages de Gauguin, c'est un jaune qui n'est pas du tout le jaune habituel du sable. Et puis sur ces images, même si la perspective est en gros exacte, on voit bien qu'elle n'a absolument aucune importance, et que ce qui compte, ce sont les couleurs les unes à côté des autres. Et il va y avoir, juste après Gauguin, un gars qui va aller encore un cran plus loin là-dedans, c'est Pierre Bonnard. Et franchement, il y a des tableaux de Bonnard où les formes sont à peine ébauchées. Vous avez au Musée d'Art Moderne de Paris, vous avez un tableau qui s'appelle La Baignoire, et où le bleu, qui est censé évidemment représenter l'eau du bain, le bleu déborde les limites de la baignoire. Il y a une femme nue dedans, vaguement brune, dorée. C'est pareil, on voit bien que c'est une femme. Enfin, les limites de son corps sont un petit peu nuageuses. Ce tableau, La Baignoire, ça n'est plus du tout une boîte de Seine. C'est un verre à cocktail, où il y a un sirop rose, une liqueur bleue, des grains de sucre dorés, tout ça s'étant mélangé, sans se dissoudre les uns dans les autres. Donc ça, c'est le premier assassinat de la boîte de Seine par la couleur. Deuxième assassinat de la boîte de Seine, c'est l'assassinat de la boîte de Seine par la forme. Et le grand assassin de la boîte de Seine par l'entremise de la forme, c'est Cézanne. Digression. Je sais bien, quand on n'aime pas l'art moderne, on déteste Cézanne. Quand j'étais jeune, et dois-je l'avouer un peu con, je détestais Cézanne. Comment pouvait-on exposer un homme qui dessinait aussi mal ? Si vous n'y connaissez rien, que vous regardez par exemple les personnages humains de Cézanne, les baigneuses en particulier, c'est pas du tout réaliste, on pense, mais non, mais il sait pas dessiner ce monsieur. Les grands artistes de l'art moderne, par exemple Picasso ou Matisse, eh bien Picasso, quasiment toute sa vie d'adulte, il a eu deux tableaux de Cézanne dans sa chambre à coucher. C'est-à-dire que pendant sa longue vie d'adulte, on va dire à peu près pendant 50 ans, la dernière chose que Picasso regardait avant d'aller dormir, c'était un tableau de Cézanne. La première chose que voyait Picasso en se levant, c'était un tableau de Cézanne. Quand même, Picasso, il avait plutôt bon goût. Petite chose amusante, essayez de nommer trois peintres, trois, qui aient déclaré qu'ils n'aimaient pas Cézanne. Salvador Dali, d'accord. Deux autres, ben, bonne chance, hein. Vous aurez du mal à trouver. Les peintres adorent Cézanne. Et il y a une raison très simple, et c'est celle que je vais vous expliquer maintenant. Cézanne, il est obsédé par ce problème de la boîte de scène. Il est obsédé par cette contradiction, par ce mensonge d'une surface plate qui a le culot de prétendre qu'elle représente un objet profond à trois dimensions. Il est obsédé par cette toile tendue sur quatre barrettes de bois ou sur ces murs sur lesquels on va peindre une fresque qui ont le culot de vouloir représenter ensuite des objets quand même franchement en trois dimensions comme la montagne Sainte-Victoire. Une montagne, c'est vraiment à trois dimensions. Ou même plus simplement et plus petitement, des oignons sur une table. Or, Cézanne, c'est un homme honnête. Il est aussi un peintre, c'est-à-dire un menteur. Un homme qui peint des objets à trois dimensions sur des surfaces à deux dimensions. Alors Cézanne, son coup de génie, c'est qu'il va réussir à réconcilier son goût de l'honnêteté et son goût de la peinture. En dévoilant le procédé par lequel les Occidentaux mentent, en montrant des objets à trois dimensions sur des surfaces à deux dimensions, des objets profonds sur des surfaces plates, eh bien, comment est-ce qu'il va dévoiler ce procédé? Il va exécuter des peintures que nous pourrions qualifier de mosaïques. Avant Cézanne, les peintres, alors attention, quand je dis les peintres, je ne parle pas des impressionnistes ou des pointillistes. Je dis avant Cézanne, les peintres ne travaillaient pas en posant pour construire leurs peintures des touches de couleurs à peu près identiques. Ils donnaient à chaque touche une forme différente, de préférence adaptée à ce qu'ils voulaient représenter. Par exemple, s'ils voulaient représenter un bout de nez de profil, ben la tache de couleur avait la forme d'un angle. S'ils voulaient représenter l'iris de l'œil d'un personnage, ben la touche, elle allait être une portion de cercle, etc. Lui, Cézanne, il travaille comme un mosaïste. Qu'est-ce qu'il fait un mosaïste? Il a plein de petits carrés qui sont en gros tous de la même forme. Cézanne, lui, il va faire quasiment ça. C'est-à-dire que dans un tableau de Cézanne, alors ça dépend des tableaux, mais 80, 90%, 70%, ça dépend des tableaux, des touches vont avoir exactement la même forme. Que ce soit pour représenter les branches d'un arbre ou le tronc d'un arbre, que ce soit pour représenter un ciel ou une montagne, que ce soit pour représenter une rivière ou des oignons sur une table, eh bien, dans un tableau donné, les touches de Cézanne auront en gros la même forme. C'est la couleur qui va indiquer la profondeur. Assez souvent, qu'est-ce qui se passe? On se dit ce qui est plus sombre, c'est ce qui est en creux et ce qui est au fond. Et ce qui est plus clair, c'est ce qui est bombé, ce qui dépasse, ce qui se rapproche. Eh bien, avec cette petite astuce, ce petit algorithme, on pourrait presque dire, Cézanne va brillamment l'appliquer dans tous ses tableaux et il va réussir à nous donner l'illusion de la profondeur simplement en modifiant la couleur de ses touches, et en particulier leur côté sombre ou leur côté clair. Cézanne, c'est un gars qui réfléchit. On sait que quand il peignait, en gros, il s'asseyait pendant 10 minutes, il réfléchissait, prenait son pinceau, prenait un petit coup de peinture, et il déposait une touche. Puis il revenait s'asseoir. Il remélangeait la peinture pour avoir exactement la nuance de couleur qu'il voulait. Il reposait une touche. C'était extrêmement lent. Mais qu'est-ce que ça signifie? Que Cézanne, c'est un magicien sur scène. Oui, boîte de scène, non, on oublie. C'est un magicien qui fait un spectacle. Et qui nous explique son tour de magie à mesure qu'il l'accomplit. C'est un magicien qui, en même temps qu'il détourne notre attention en levant la main gauche, nous dit, vous savez, je lève la main gauche pour détourner votre attention, parce que de la main droite, je suis déjà en train de tirer le lapin hors du chapeau haute forme. En montrant comment, par quel tour de main, par quelle astuce il donne l'illusion de la profondeur, eh bien il la tue en même temps. Il nous montre que c'est nous qui inventons le creux de la boîte de scène, alors qu'en réalité nous ne sommes qu'en train que de regarder une surface plates. Et donc ces centaines de petites formes régulières, c'est l'instrument du crime, c'est l'instrument par lequel Cézanne tue la boîte de Seine. Mais attention, il y a pire que Cézanne. Pire que Cézanne, encore plus détesté que Cézanne, Picasso. À l'école primaire, quand vous aviez fait un vraiment mauvais dessin, qu'est-ce que vous disaient vos petits camarades de l'école primaire ? « Dis donc, tu fais du Picasso, toi !» Picasso, l'homme qui peint deux yeux à droite du nez. Picasso, l'homme qui peint des grosses dames comme s'il avait 6 ans. C'est Picasso qui va vraiment nous expliquer le moment où tout va basculer. Les impressionnistes ouvrent la porte, Cézanne, Gauguin, Van Gogh poussent, et Picasso, c'est le gars qui va attraper l'art moderne par la nuque, le poser au bord du gouffre et lui donner le premier coup de pied. Et ce seront les peintres abstraits qui donneront le dernier. Comment est-ce que Picasso fait pour tuer définitivement, ou presque, la boîte de Seine ? Je suis obligé de passer par ce que vous allez prendre pendant quelques minutes pour une digression. C'est pas du tout une digression. On est au cœur du sujet. Je vais introduire quelque chose où vous allez croire que je joue au philosophe, que je joue au Roland Barthes ou au Jacques Lacan, car j'introduis les représentations et les signes. Il y a une raison absolument essentielle. Et pour comprendre cette raison, il va falloir que nous définissions ce que c'est qu'une représentation, ce que c'est qu'un signe, et que nous découvrions la relation inévitable, sans exception, entre toutes les représentations et les signes. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation ? Par exemple, souvent les gens disent « une représentation, c'est une photo ». Alors un jour, il y avait un monsieur qui détestait Picasso. La discussion en face de Picasso devenait un peu violente. Et tout d'un coup, l'homme sort son portefeuille, sort une photo en noir et blanc de sa femme, prend la photographie en noir et blanc de sa femme, la flanque dans la main de Picasso. « Ça, c'est ma femme, c'est pas comme dans vos tableaux. » Picasso, très calme, saisit la photographie en noir et blanc, la regarde, dans tous les sens, et répond tranquillement à l'homme furieux. « Monsieur, je vous plains parce que votre femme, elle est vraiment petite, puis elle est vraiment plate, puis alors elle est toute grise, votre femme. » Et le crétin comprit enfin qu'une photographie, ça n'est pas l'objet représenté. Que sa femme n'était pas quelques lignes noires et blanches de 0,1 millimètre d'épaisseur. Que sa femme, c'était quelque chose en 3 dimensions, rose et blond éventuellement. Et qu'une photo, désolé, c'est du papier en noir et blanc. C'est pas du tout la même chose. Une représentation, ça n'est qu'une représentation. La carte n'est pas le territoire. La représentation n'est pas l'objet. La photographie des diamants de la couronne ne vaut qu'un centime. Un tableau représentant une banane ne nourrira aucun singe. Quand Magritte peint une pipe, et puis écrit en dessous « ceci n'est pas une pipe », les gens croient qu'il fait une vanne. Non, il décrit exactement la réalité. Ce qu'il y a au-dessus de la phrase « ceci n'est pas une pipe », ça n'est pas une pipe. C'est la représentation d'une pipe. C'est-à-dire qu'une représentation cherche à donner une grande quantité d'informations visuelles analogues à l'objet que l'on veut représenter. Analogue, ça n'est pas égal. Ça n'est pas l'objet représenté, c'est un ensemble d'informations visuelles analogue à l'objet représenté, ou du moins le plus analogue possible. Bon, on a défini la représentation. On est toujours dans l'idée qu'on va expliquer pourquoi Picasso a donné le dernier coup de dague dans le dos de l'art occidental traditionnel. Maintenant que nous avons défini la représentation, maintenant on va définir le signe. Un signe, par exemple, c'est un cercle rouge avec une barre blanche. Et ça, ça dit sens interdit, c'est un signe. Ou bien la lettre A, c'est un signe. Quand je pose cette question à des touristes états-uniens, et que je dessine pour poser la question sur un bout de papier la lettre A, je leur dis « c'est quoi ça ?» Ils me répondent « Well, this is the letter A. » C'est la lettre A. Alors je leur réponds impérial « Ah non, c'est la lettre A. » Et là, ils ne comprennent plus. Parce que pour eux, c'est la lettre A, pour moi, c'est la lettre A. Et puis je suis là à couper les cheveux en quatre, à dire « Mais for you, it's the letter A, and for me, it's the letter A. » Parce que vous, vous parlez anglais, qu'en anglais on dit « A », et qu'en français on dit « A ». Bon, ils trouvent que c'est vraiment sodomiser les aptères. Je reprends mon bout de papier, mon crayon, et je leur dessine un idéogramme chinois, le seul que je connaisse qui représente un cheval. Je leur dis « C'est quoi ça ?» Ils disent « On ne sait pas, c'est un caractère chinois. » Je dis « Mais oui, mais il y aurait des Chinois qui, éventuellement, devant la lettre A, ils ne sauront pas que c'est la lettre A. Mais vous, occidental, vous ne savez pas que c'est un caractère chinois qui veut dire « cheval ». Donc, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un signe ? Un signe, c'est n'importe quel élément au sujet duquel l'émetteur du signe et le récepteur du signe se mettent d'accord sur ce qu'il signifie. Nous, occidentaux, devant une lettre A, nous sommes d'accord que c'est la lettre A. Si nous sommes français, nous sommes d'accord qu'elle se prononce A, les Italiens, les Espagnols aussi, et si nous sommes anglais ou états-uniens, nous décidons qu'elle se prononce A, mais dans les deux cas, l'émetteur et le récepteur se sont mis d'accord. Un signe, c'est toujours quelque chose sur lequel on se met d'accord. Nous avons donc défini ce que c'est qu'une représentation. Une représentation, c'est un objet qui transfère une grande quantité d'informations visuelles analogues à l'objet que l'on souhaite représenter. Et un signe, c'est n'importe quel élément, mais au sujet duquel l'émetteur et le récepteur du signe se sont mis d'accord quant à sa signification. Et maintenant, arrivons au sujet qui fâche. Quel est le lien indissoluble, sans aucune exception, entre les représentations et les signes? Quand je pose cette question aux gens, dans 99% des cas, ils me disent « on ne sait pas ». J'exagère. Les imprimeurs, souvent les vidéastes, certains techniciens d'électronique, comprennent tout de suite. Et évidemment, les peintres, en général, comprennent tout de suite. Si vous avez un smartphone ou si vous avez un écran d'ordinateur devant vous, vous allumez le smartphone, vous allumez l'écran d'ordinateur, vous allumez l'écran de télé, c'est la même chose. Ce qui va apparaître sur l'écran de votre ordinateur, votre smartphone, votre télévision, ça va être une représentation. Cette représentation, elle est fabriquée, elle est produite, comment ? Par l'écran de votre smartphone, ou par l'écran de votre télé, ou par l'écran de votre ordinateur ? Par des milliers, voire des millions, de tout petits points, des pixels. J'avais pas parlé un peu plus tôt de mosaïque ? Que Cézanne, quand il fait une peinture, en fait, il fait une mosaïque. Mais votre smartphone, votre écran de télé, il fait une mosaïque. Votre écran d'ordinateur, il fait une mosaïque. Toutes les représentations, sans exception, sont faites de signes. On ne peut pas produire une représentation sans la construire avec des éléments qui ne sont pas la totalité de la représentation, et qui par conséquent sont des signes, parce que tant l'émetteur que le récepteur se mettent d'accord qu'une fois que tous ces éléments sont mis les uns à côté des autres, par exemple pour un profil, l'angle qui représente le bout du nez, eh bien, au départ c'est un signe, mais une fois qu'il est ajouté aux autres, tout d'un coup il prend une signification, il représente quelque chose, l'angle du bout du nez. De même, les traits ou les points qui vont représenter sur un portrait les poils des sourcils, isolés. Un poil de sourcil, c'est quoi? C'est juste une ligne, ça ne représente rien. Mais si vous mettez cette ligne un peu courbe exactement à côté de tout un tas d'autres lignes avec le bon angle de courbe pour chacune des lignes, ça devient les poils d'un sourcil. Donc des signes, les lignes, deviennent des représentations. Toutes les représentations, toujours sans exception, sont faites de signes. Et là arrive le point essentiel de Picasso. Cézanne, en faisant ses tableaux comme des mosaïques, dit « Un tableau illusionniste occidental qui se veut une représentation, au départ, c'est un ensemble de signes. » Picasso, lui, il crée le cubisme. Alors, oubliez toutes les définitions que vous avez entendues du cubisme. « Oh, c'est l'art de représenter un objet selon toutes ses facettes. » C'est absolument pas ça. Le cubisme, c'est de maintenir une représentation illusionniste. C'est le fait de faire une peinture qui reste une peinture illusionniste. Par exemple, on veut représenter un monsieur ou une dame qui joue de la guitare. Mais on va diminuer la représentation le plus possible et on va augmenter les signes le plus possible. Vous voyez la tête des premiers tableaux cubistes, gris ou bistre. Et puis il y a des petits angles, des petites lignes, des petits trucs bizarroïdes partout. Et quand vraiment on cherche, on voit bien tout d'un coup, il y a cinq lignes parallèles, c'est les cordes de la guitare. On voit les petites clés qui servent à tendre les cordes de la guitare. On voit un bout de moustache. On voit un bout d'œil. Il y a bien un peu de représentation, mais il y a surtout plein de signes. Tout simplement, Picasso, c'est Cézanne au cube. Cézanne, il est encore gentil. Picasso, il est plus gentil du tout. Il vous dit, arrêtez de croire à l'illusionnisme de la peinture illusionniste. Ce que vous regardez, ce sont des signes. Et c'est vous qui reconstituez l'illusion, mais au départ, ce sont des signes qui n'ont de valeur que parce que l'émetteur et le récepteur ont accepté de leur donner telle ou telle valeur. Et là arrive non plus un grand choc, mais un principe essentiel de l'art. Dans l'art, avant l'art moderne, c'était un principe qu'on déguisait, qu'on prétendait ne pas voir, même si tous les artistes l'ont toujours su. Avec l'art moderne, ça devient un principe essentiel. Pour comprendre ce que c'est que ce principe, il faut d'abord se poser la question, quel est le nombre minimal de créateurs pour qu'une œuvre d'art existe? De personnes nécessaires pour qu'une œuvre d'art existe comme œuvre d'art. Deux personnes, pour toutes les formes d'art, quelles qu'elles soient, pas juste la peinture, toutes les formes d'art. L'artiste et la personne qui regarde. Pour qu'il y ait une œuvre d'art, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui la reçoive. Le David de Michel-Ange, à 4 heures du matin, c'est pas le David de Michel-Ange, c'est un très gros caillou. Le bal du Moulin de la Galette de Renoir à Orsay à 4 heures du matin, ça n'est pas le bal du Moulin de la Galette, c'est une grande toile avec beaucoup de pâtes colorées dessus. La 5e symphonie de Beethoven, dans votre CD, si vous la jouez pas, c'est des traces magnétiques sur un disque de plastique. Madame Bovary, si vous ne lisez pas le livre, c'est de l'encre sur le papier. Madame Bovary devient un roman quand vous lisez le livre. Longtemps, je me suis couché de bonheur de Proust. Si vous ne lisez pas la phrase, c'est pas le début d'un roman. C'est rien, c'est de l'encre sur le papier. Donc le principe essentiel de tout art qui était caché auparavant et qui avec l'art moderne devient évident, c'est que le spectateur, c'est le co-créateur de l'œuvre. Et c'est ça que Cézanne et Picasso ont voulu montrer. Cézanne gentiment, Picasso brutalement. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Parce que, évidemment, les auditeurs et les auditrices rusés vont dire « Picasso continue à faire de la peinture illusionniste malgré tout, avec le moins possible de représentations, le plus possible de signes. » Donc, qu'est-ce qui se passe si, en allant au bout de cette logique, on dit « il n'y a plus du tout de représentation, il n'y a que des signes ». Ça s'appelle l'art abstrait. Et de fait, premier tableau cubiste, Les Demoiselles d'Avignon en 1907. Premier tableau abstrait, Kandinsky, 1911, en même pas 4 ans. Je parle bien d'art occidental. Quand on explique tout ce que je viens d'expliquer à des Chinois et des Japonais, ils sont morts de rire. En particulier à des artistes du monde islamique. L'art abstrait, ça fait 1400 ans qu'ils en font de l'art abstrait. Les calligraphies, les lignes géométriques dans les mosquées, etc. Et c'est quoi? C'est exclusivement des signes. Dans une mosquée, vous avez zéro représentation, 100% signes. Donc nous, les Occidentaux, qui sommes très fiers d'avoir, croyons-nous, inventé l'art abstrait, on a tout simplement réintroduit dans l'art officiel occidental la notion d'art abstrait, qui est en réalité une notion totalement ancienne et déjà bien connue de l'humanité. Simplement, elle n'avait pas d'étiquette. Et avec l'art moderne, tout d'un coup, elle a une étiquette. Pour résumer, qu'est-ce que c'est que l'art moderne occidental? Eh bien, c'est un art où on n'a plus l'obsession de la perspective. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser la perspective, mais elle n'est plus la chose à utiliser absolument. Elle est une option parmi d'autres. On n'a plus l'obsession de la boîte de scène. Elle n'est qu'une option parmi d'autres. On n'a plus l'obsession de la représentation, de l'illusionnisme. C'est une option parmi d'autres. On peut montrer soit les signes qui entrent dans la fabrication de la représentation, on peut montrer que les signes, on peut montrer tout ce qu'on veut. Avec, en revanche, un principe fondamental, on est toujours conscient que le spectateur est le co-créateur de l'œuvre d'art. Il y a des artistes qui veulent donner au spectateur le rôle principal, c'est par exemple la peinture conceptuelle, quand un gars écrit une phrase, ici, trois mandarines, deux clémentines et une poire. Puis c'est à vous d'imaginer trois mandarines, deux clémentines et une poire. Ou bien on veut en revenir à des formes un peu traditionnelles et qu'on ne vous laisse pas beaucoup d'espace, mais on vous en laisse par définition. Et puis, il y a toute la gamme. Et je rappelle que, par exemple, le cinéma, c'est une forme d'art amusante en ceci qu'elle oscille constamment entre les deux pôles. C'est-à-dire qu'au cinéma, on vous donne très souvent des scènes extrêmement précises où vous, le spectateur, vous n'avez pas grand-chose à reconstruire. On vous montre une scène de foule, on vous montre l'entrée d'un palais, on vous montre un grand paysage. Et puis, bon, ben voilà, vous avez le grand paysage. Et puis, quelques images plus tard, on va vous montrer un visage. En fait, un visage relativement neutre. Mais le contexte précédent fait que vous savez qu'en fait, ce visage un peu neutre, eh bien, il est arrivé une catastrophe terrible à ce personnage, et alors vous, qui en réalité, de manière objective, voyez un visage neutre, vous le remplissez de telle ou telle émotion que vous savez être l'émotion que le personnage est censé éprouver. Et donc, le cinéma, c'est constamment ça. Ça oscille de « on travaille à la place du spectateur » ou bien, tout d'un coup, il faut que le spectateur lui-même construise l'émotion ou l'idée qu'on lui a suggérée avant, et que tout d'un coup, eh bien, il va reconstruire. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le cinéma est un art qui peut être tellement impliquant, immersif, parce qu'on fait en sorte que le spectateur se précipite dans l'histoire. C'est le risque et la beauté de l'art. L'art donne un objet aux gens, que ce soit un roman, que ce soit une musique, que ce soit un film, que ce soit une peinture, une sculpture, un bâtiment, un pas de danse. Et les gens qui le reçoivent en font ce qu'ils veulent. Bien entendu, l'artiste espère guider cette recréation. Parfois, il y a des artistes qui ne veulent pas guider. Et en particulier, c'est de plus en plus justement fréquent dans l'art moderne. Alors, l'art moderne, là, pas seulement du point de vue de la peinture, dans les arts modernes, où les artistes, réellement, sincèrement, disent « c'est au public de décider, c'est à chacun et chacune dans le public de décider quelle est l'émotion qui va jaillir, quelle est l'idée qui va jaillir. » Et ça, à nouveau, quel que soit l'art, chorégraphique, littéraire, poétique, culinaire, cinématographique, vidéographique, etc. Maintenant, c'est une des conquêtes et c'est l'un des principes de l'art moderne. L'artiste sait que l'œuvre d'art, quelle qu'elle soit, a une vie autonome dès qu'elle a été produite et que cette vie autonome devient ensuite autonome individuellement dans l'esprit de chaque personne qui la reçoit. Les installations, c'est très intéressant, c'est le retour de la boîte de scène, avec cette grosse différence, que comme les installations c'est en trois dimensions, on peut entrer dedans. C'est-à-dire que la peinture, c'est la boîte de scène immobile en deux dimensions. Le cinéma, c'est la boîte de scène mobile en deux dimensions. Les installations, c'est la boîte de scène dans laquelle tu peux entrer. Ah bien, en trois dimensions. Mais tu peux entrer dedans. C'est pour ça que tout d'un coup, les installations, ça a eu tellement de succès dans l'art moderne, parce que enfin, c'était une forme d'art à laquelle on n'avait presque pas pensé. Il y a quelque chose qui est très proche de l'idée d'installation. Alors ça me coûte un peu de dire ça. Les églises. Déjà, même les églises romanes, les églises gothiques, c'est l'idée d'un environnement sensoriel total qui te suggère telle ou telle émotion, telle ou telle idée. En particulier à l'époque baroque, c'est là où, très clairement, les créateurs baroques savaient pertinemment qu'ils étaient en train de créer ce que nous, les modernes, nous appellerions maintenant des installations. Les architectes gothiques, les architectes romans, probablement savaient ça intuitivement, mais certainement pas explicitement. Alors que les créateurs baroques, là c'est très très clair, ils veulent faire un effet, ils veulent que l'architecture soit théâtrale, donc il crée des boîtes de scène, mais des boîtes de scène dans lesquelles on peut pénétrer. Le théâtre, c'est une boîte de scène en trois dimensions dans laquelle le spectateur, jusqu'à présent, ne pouvait pas pénétrer. Les installations, c'est une boîte de scène dans laquelle on pénètre.
Non essentiel qui aurait dit un jour on appellerait comme ça ceux qui marchent à la poésie, à l'émotion et au pourquoi. Quel est le faiseur de parlotte, le petit gratte-papier du pouvoir qu'a choisi ces mots de despote pour insulter nos belles histoires. Comment lui est venu à l'idée de balancer dans les oubliettes tout ce qui fait rêver, frissonner, qui nourrit nos cœurs et nos têtes. Qui a osé ces deux mots-là, qui tire un trait sur nos folies. Qui met un baillon sur la voie, ceux qui parlent pas d'économie. Non essentiel le petit libraire, qui se bat tout seul contre des moulins, pour qui est sur ses étagères 10 000 voyages dans ses bouquins. Les larmes aux rideaux du théâtre, qui pleure les beaux jours de Beckett, et qui sait plus comment se débattre pour pas finir en supérette. Les coups de gueule de Vincent Lindon, les Ken Loach, les Costa Gavras, aux caméras Révolution, qui font le monde moins dégueulasse. Le souffle de l'accordéon, les mains qui courent sur des guitares. Danger de virus pour la nation, poète, on verra ça plus tard. Non essentiel sur sa console, l'intermittent du désespoir, la chouette à sauce de bénévole qui qui met de la couleur aux nuits noires. Le boulot du programmateur, c'est 120 places à faire vibrer avec cet inconnu de chanteur qu'a pas de showbiz dans ses couplets. Les pas de la danseuse dans le vent qui sur son lac nous fait des signes. Le mec qui break ses 25 ans, hip-hop sa vie qu'on égratigne. Léo, je te jure, avec le temps, faut que tu remballes ta poésie. Grand Jacques et ta valse à mille temps, tu peux jeter tout ça aux orties. Ton essentiel, les soirs de fête, au resto des copains d'abord, le bar à l'abri des tempêtes, du monde des cons et de la mort. Devant le magasin de jouets, le gosse qu'invente le cinéma, son bébé tout seul au bleuet, qu'aimerait bien le serrer dans ses bras. La Joconde, son sourire de velours, le flacon de rêve du parfumeur, le beau bouquet pour ton amour, les cheveux sur ta tête de vainqueur, le partage, l'amour, la passion, Léna c'est pas dans son micelle. Comme une étoile sur ma chanson, dans le camp des non-essentiels. Comme une étoile sur ma chanson, dans le camp des non-essentiels.
S'amuse. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Comprendre vraiment l'art moderne. L'art moderne n'a pas créé l'anarchisme. L'anarchisme n'a pas créé l'art moderne. Mais la première exposition impressionniste a eu lieu en 1874 et le premier congrès de l'international anarchiste a eu lieu en 1872. Et quoique ni Manet, ni Degas, ni Monet n'aient particulièrement agité le drapeau noir, ils ont quand même mené la première charge concertée contre l'imposant édifice de l'art officiel. Pissarro, en revanche, fut anarchiste. Et parmi les premiers successeurs des impressionnistes, Signac, Cross, Maximilien Luce, Morin furent soit anarchistes, soit très proches des anarchistes. Et ils furent tous défendus par le critique Félix Fénéon, anarchiste notoire. De façon plus fondamentale, le même type de renversement s'opère dans les deux cas. À une manière unique de voir et de donner à voir, succède la liberté la plus complète dans les manières de voir et de donner à voir, et à une manière unique, la hiérarchie, de concevoir la politique, succède l'exigence la plus complète de la liberté et de l'égalité politique. Aux structures asymétriques, le chef qui décide, le sujet qui obéit, et l'artiste qui donne, le spectateur qui reçoit, succède des structures espérées égalitaires, de partenaires égaux dans la décision, l'action et la distribution, et du spectateur partageant avec l'artiste le travail de création de l'œuvre. Gardons-nous bien dès l'abord d'un contresens possible. Les aspects communs de l'explosion artistique occidentale moderne et de l'explosion anarchiste peuvent s'expliquer par les aspects communs des développements à l'intérieur de chacun de ces deux champs. Mais les artistes modernes ne sont pas devenus modernes parce qu'ils étaient anarchistes. Après les pointillistes et avant eux, la majorité des artistes occidentaux n'étaient pas anarchistes. Et quant à l'anarchisme, ils ne cherchent pas à soutenir telle ou telle école artistique. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons essayer de comprendre, c'est cette explosion de l'art moderne. Alors nous allons commencer avec la structure essentielle de l'art occidental, la perspective. La peinture occidentale, celle qu'aiment les gens qui n'aiment pas l'art moderne, elle a commencé avec les Italiens, ou plus exactement, elle a recommencé avec les Italiens. Par exemple, Cimabue. Vous savez, Cimabue, si vous allez au Louvre, ben, vous le voyez au début de la Grande Galerie. Ce sont des peintures qui ressemblent énormément aux icônes russes, c'est-à-dire très exactement aux icônes byzantines, puisque tout simplement les Italiens ont commencé en copiant la peinture byzantine. Quand on regarde tant les peintures byzantines que celles de Cimabue, on s'aperçoit d'une chose, que les visages sont absolument pas réalistes, qu'ils sont stéréotypés, et puis surtout, on s'aperçoit que les icônes ou la peinture de Cimabue, il n'y a pas de profondeur. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de profondeur? Les icônes sont une peinture religieuse qui veut représenter le ciel, le monde divin, et pour bien marquer qu'il est différent du monde humain, d'abord, en général, on peint sur un fond d'or, et puis, pas de profondeur, puisqu'elle n'est pas nécessaire, c'est un autre monde. Seulement, voilà. Arrive Giotto. Et Giotto, on lui commande la vie de saint François d'Assise. Alors, même si saint François d'Assise appartient à la mythologie chrétienne, il a quand même bien existé. Les Italiens l'ont vu, ils ont mangé et bu avec lui, et puis il a prêché, paraît-il, aux oiseaux, au soleil, aux loups. Mais alors, si on veut représenter la vie de saint François d'Assise, ben, il faut représenter les loups, les oiseaux, le soleil, la montagne. Bref, il faut représenter la réalité. Giotto, se disant ben, « maintenant il faut que je représente la réalité ben, », il se rend compte que la réalité telle que nous les humains nous la voyons, ben, elle est profonde. Elle n'est pas plate, elle n'est pas en deux dimensions seulement comme les icônes byzantines. Elle est creuse, elle a trois dimensions. Et son problème devient « mais comment est-ce que je vais creuser le tableau ?» Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'avais essayé d'apprendre à dessiner, comme beaucoup de monde, je me disais, mais comment je creuse là, la feuille de papier, elle est plate, ce que je veux, c'est que ça aille loin, ça aille profond. Eh bien, Giotto, il découvre une règle très simple. Ce qui est loin semble petit, ce qui est proche semble grand. On ne va pas peindre deux arbres identiques, comme faisaient les Byzantins. On va en peindre un tout petit, et il va donc désigner le fond, le lointain. On va en peindre un autre grand, et il va désigner ce qui est au premier plan, ce qui est proche de nous. Et alors ce qui se passe, c'est que après Giotto, les peintres italiens, peut-être aussi la clientèle ecclésiastique italienne, ne sait-on jamais, vont être fascinés par cet effet de réalité. Et il va y avoir une rivalité professionnelle, une rivalité de marché, entre peintres pour essayer d'être de plus en plus réaliste et, très précisément, de donner une profondeur acceptable au tableau qui reste pourtant un objet en deux dimensions. Et c'est pour ça que dans les années 1430, on va inventer la perspective. Alors la perspective, qu'est-ce que c'est? Pour comprendre, en particulier là à la radio, où on ne peut pas voir les choses, pour comprendre ce que c'est que la perspective, il faut que vous visualisiez une pyramide. Vous, le spectateur ou la spectatrice, vous êtes debout, vous regardez un tableau. Imaginez que la pyramide, elle soit entre vous et le tableau. Mais au lieu que la base de la pyramide soit posée sur le sol, la base de la pyramide, vous la remontez et elle est contre votre visage. Donc la pointe de la pyramide, elle va jusqu'à l'objet que vous voulez décrire. La verticale qui part de la pointe de la pyramide vers le sol, elle est parallèle au sol, elle n'est pas perpendiculaire au sol. Les pyramides, elles sont perpendiculaires au sol. Non, là, la base, elle est contre votre visage, et la pyramide se dirige tout droit en face de vous. C'est ça la perspective. C'est d'avoir dans les yeux une pyramide virtuelle, et la pointe de la pyramide, c'est le célèbre point central, le point focal, le point de fuite. Et une fois qu'on a inventé ça, et incidemment on présume que c'est un architecte qui a eu l'idée principale, Brunelleschi. Et c'est pas étonnant parce que les architectes, qu'est-ce qu'ils font professionnellement? Ben, ils font des dessins en deux dimensions, mais ils sont obligés de penser en trois dimensions parce que ce qu'ils veulent construire, c'est en trois dimensions. Eh bien, une fois que cette perspective, ce type de perspective a été inventé, waouh, génial! La peinture occidentale est devenue une peinture illusionniste. Alors attention, c'est le mot qu'il faut utiliser. Vous entendez souvent parler de peinture figurative, de peinture réaliste. Non. Le bon mot, c'est illusionniste. Le but de la peinture occidentale, une fois que la perspective est inventée, c'est de vous donner l'illusion de la réalité. Seulement, la peinture occidentale, elle va très vite dépasser le simple cadre de la décoration d'églises, et en particulier de la décoration des autels et des murs des églises. Et elle va arriver dans les maisons, évidemment les maisons des riches, hein, les palais, les châteaux, les maisons des grands banquiers, puis les maisons des grands marchands, et on va avoir en général un cadre autour de ces peintures. Et alors là, on va arriver à la deuxième structure absolument fondamentale de la peinture occidentale, et ce sera la destruction de cette structure qui marquera la création de l'art moderne. De quoi parle-t-on? Quand on va au théâtre, quand on va à l'opéra en particulier, qu'est-ce qu'on voit? On voit un grand cadre doré autour de la scène. Et puis on voit la scène elle-même, qui est un grand espace plat, et puis au-dessus de la scène, délimité par le grand cadre doré, on voit ce qu'on peut appeler la boîte de scène. Et la boîte de scène, c'est l'espace où il y a les actrices et les acteurs et les décors. Mais quand on va dans un musée occidental traditionnel, qu'est-ce qu'on voit? On voit plein de cadres dorés, à l'intérieur desquels il y a une peinture, mais cette peinture, elle veut donner l'illusion qu'il y a un espace plat, le sol, l'océan, et puis un grand espace vide au-dessus, qui est l'espace où il y a le portrait, la nature morte, le château, le paysage, la vue de marine. Bref, un tableau occidental classique, c'est une boîte de scène. C'est exactement l'idée qu'il y a derrière. C'est qu'un tableau, ça représente une scène, donc ça représente un espace en trois dimension. Et ça, attention, c'est complètement la structure qui va exister dans la tête de tous les artistes occidentaux et dans la tête de tous les spectateurs de la peinture occidentale jusqu'aux impressionnistes. À l'époque des impressionnistes, tout d'un coup, tout ça va changer. Il y a plusieurs raisons à ça. Première raison, on a inventé la photographie. Oui, et alors? La photographie copie la réalité beaucoup plus vite, beaucoup mieux, pour beaucoup moins cher. Et donc, si l'art n'a pour but que de copier la réalité, si l'art n'a pour but que d'être illusionniste, Mais alors la peinture, elle est morte, parce que ça va bien plus vite, et parce que tout le monde peut faire de la photographie, alors que faire de la peinture, c'est très difficile. Or, personne ne proclame, ni même les impressionnistes, que la peinture est morte. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien, au fond, que l'idée selon laquelle l'art, le but de l'art, c'est de copier la réalité, que le but de l'art, c'est d'être illusionniste, en fait, on sait très bien que ça ne suffit pas. D'ailleurs, incidemment, les artistes classiques, les artistes avant les impressionnistes, très souvent, pour juger de la qualité purement graphique, purement chromatique de leurs tableaux, très souvent, ils les renversaient. Ils les mettaient sens dessus-dessous pour oublier le sujet, pour oublier ce qui était représenté et juste vérifier que les couleurs étaient bien les bonnes, que les masses et les lignes et les formes étaient bien celles dont ils avaient envie. Et puis, les impressionnistes comprennent qu'il se passe une deuxième chose avec la photographie. Alors là, c'est un petit peu compliqué de visualiser ça. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire, la pyramide de la perspective. Donc, visualisez-vous la spectatrice ou le spectateur, et puis vous avez une pyramide le long de votre visage, la base de la pyramide est le long de votre visage, la pointe de la pyramide est devant vous, comme si vous étendiez le bras et que votre bras était au centre de la pyramide, et l'objet que vous regardez, il est à la pointe de la pyramide. Eh bien, les impressionnistes comprennent que la photographie renverse cette pyramide. Vous allez me dire, pardon, là tu compliques. Non, non, je ne complique pas du tout. Quand on photographie, les limites de la caméra, les limites physiques de l'objectif de la caméra, et puis du lieu où la lumière touche la pellicule ou touche les pixels, ça crée une limite physique. Ça découpe, comme une paire de ciseaux dans une feuille de papier, ça découpe une partie du monde. Et quand on regarde une photographie, souvent on a bien cet effet violent qu'on voit bien que ça coupe. Par exemple, vous prenez la photographie d'une foule, vous prenez la photographie de quelqu'un dans une foule, alors le quelqu'un, il est bien, il est complet, et puis les gens à droite, ils sont coupés au milieu, et les gens à gauche, ils sont coupés presque au milieu aussi. Et donc vous imaginez immédiatement ce qu'il y a au-delà des limites de la photographie. Donc, la peinture occidentale, qui était une boîte de scène, qui construisait l'image à l'intérieur du cadre doré, et qui voulait suggérer qu'il n'y avait que cette image à l'intérieur qui comptait, avec la photographie, c'est le truc inverse. On explose les murs de la boîte de scène, et on donne l'impression qu'il y a le reste tout autour. Avec la photographie, c'est un œilleton, c'est un Judas, c'est un petit trou dans une scène. Bref, les murs de la boîte de scène ont explosé. Ce qui signifie que, au lieu que mentalement les gens se concentrent sur le point de fuite de la vieille perspective, l'œil du spectateur va un peu partout, et surtout l'esprit du spectateur n'est plus concentré sur le point de fuite. Et puis, troisième chose qui se passe, et alors là, c'est au-delà de la simple photographie. Les impressionnistes, ils en ont marre de la boîte de scène. Pourquoi ? Parce que la boîte de scène, dans la peinture occidentale classique, c'est vraiment une boîte de scène, c'est vraiment un théâtre. C'est-à-dire que jusqu'aux impressionnistes, la peinture a principalement servi à raconter une histoire. Jésus sur la croix, la Vierge Marie déplorant la mort de Jésus, la gloire de Louis XIV écrasant les protestants, la gloire de Louis XIV massacrant les Hollandais, la gloire de ceci. Les épisodes, c'est toujours un épisode, c'est un instant, c'est comme un instant dans un film. Mais les impressionnistes, ils se disaient, nous on veut représenter ce qu'on voit. Et très honnêtement, les peintres jusqu'à eux, est-ce qu'ils voyaient le Christ mort sur la croix ? Non. Est-ce qu'ils voyaient Louis XIV en train d'écraser les protestants ? Non. Donc ils étaient tout le temps à imaginer et à raconter des histoires. Et les impressionnistes disent, non, nous, désolé, on veut voir le monde et on veut représenter ce qu'on voit. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'ils en ont marre de raconter des histoires. Ils disent, la peinture, ça ne sert pas à raconter une histoire, ça sert à représenter ce qu'on voit. D'autant plus que, qu'est-ce qui se passe socialement à ce moment-là ? Arrive non seulement la bourgeoisie, mais en plus la petite bourgeoisie. Et tout d'un coup, tous ces bourgeois veulent bien sûr imiter le mode de vie des aristocrates, Et qu'est-ce qu'ils savaient du mode de vie des aristocrates? Ben, entre autres choses, que les aristocrates, dans leurs palais, dans leurs hôtels particuliers, il y a des tableaux au mur. Alors les tableaux, ça coûte cher. Et donc la bourgeoisie va vouloir mettre des photographies au mur, ou si on va mettre des tableaux, eh bien, au lieu de commander, ce qui est très cher, à un peintre un tableau, on va aller acheter en choisir un dans son atelier. Et donc les peintres, au lieu, par exemple, de se concentrer sur le fait de faire des portraits, qui sont commandés, qui coûtent cher, ben, ils vont préparer des tableaux à l'avance. Et ils se rendent compte que qu'est-ce qu'on vend facilement? Ben, par exemple, des paysages. Coup de chance, les impressionnistes ne veulent pas faire des peintures d'histoire, ils veulent faire des paysages, ça se vend très bien. Bien entendu, ça va prendre un petit peu de temps. Néanmoins, ce changement, cette arrivée de la petite bourgeoisie comme clientèle des images, eh bien, c'est ça qui va aussi aider à exploser l'art illusionniste occidental traditionnel.